à mon sens, je suis désolé de vous le dire, c'est un peu dur, c'est un peu de but en blanc sans prévenir, mais j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui je fais des formations par rapport au développement informatique? Parce que je vois que l'IA, elle peut coder, donc avec le Covid, les écoles traditionnelles se sont mis à faire du téléprésentiel parce qu'elles ont copié-collé les recettes qu'elles connaissaient, jusqu'à découvrir que c'était quand même peut-être un peu fatigant. Ce qu'on a observé, c'est que les clients en face, eux, attendent un peu plus que ça se fasse à distance, même le rendez-vous commercial, alors qu'avant, c'était impensable.
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Diplômé de l'EFRE en 2008, il commence à entreprendre avant même la fin de ses études et lance en 2007 ce qui deviendra par la suite Open Classroom. Porté par une vision novatrice de l'éducation moderne, cette entreprise leader dans la thématique de l'e-learning développe maintenant des formations par alternance et poursuit son internationalisation massive aux États-Unis et au Royaume-Uni. Bonjour Mathieu, comment vas-tu ?
Bien, merci.
Très bien.
On est hyper content de t'accueillir sur notre micro. À notre micro, parce que ça fait longtemps qu'on a Open Classroom en tête et ça fait très longtemps qu'on veut faire un épisode sur le futur de l'éducation, de l'enseignement et la capacité à s'intégrer dans la société. Donc, hyper content. Merci beaucoup de nous donner un peu de ton temps. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement qu'est-ce que c'est l'e-learning et en quoi c'est un sujet qui est hyper important?
L'e-learning, c'est un mot qu'on utilisait un petit peu à une époque, ça dépend des époques, il y a plusieurs façons de le nommer, mais en gros, c'est pour parler de formation à distance, tout simplement. Donc c'est juste, au lieu d'être dans la même pièce physique, ça a lieu à distance, et il y a eu plusieurs formes de formation à distance, évidemment, ça a été notamment les formations à distance du CNED par courrier, où tu recevais des exercices, des devoirs à faire et tout. Mais l'e-learning, ça fait juste référence à une formation qui se passe via Internet. Sauf que derrière cette boîte, tu peux trouver 12 millions de façons différentes de faire. Et donc, et plein de façons qui peuvent être très, très, très différentes les unes des autres. Voilà ce que je peux dire sur l'e-learning. C'est-à-dire, en gros, je sais même pas ce que c'est moi-même, puisque je suis dedans. Ça dépend quel type d'e-learning tu dis, quoi.
C'est quoi, justement, du coup, ces différentes façons et c'est quoi les différents types d'e-learning?
Écoute, tu peux découper de plein de façons différentes. Tu peux parler notamment d'e-learning purement online, d'e-learning hybride qui va mélanger avec du présentiel. Tu peux parler d'e-learning synchrone, asynchrone. Synchrone, ça va être en fait du téléprésentiel, c'est-à-dire qu'en fait, on va simuler en visioconférence une salle de classe en reprenant un peu les codes habituels. Tu peux le faire en asynchrone. Dans ce cas-là, c'est plus proche de l'envoi de courrier que tu faisais à l'époque, où on envoie des messages, on demande des trucs, tu renvoies après, mais c'est pas forcément en temps réel. Ou tu peux faire un mix de synchrone et d'asynchrone. Et là, ce mix-là peut prendre plein de formes différentes. Tu peux avoir 10% de synchrone, 40% de synchrone, tu vois, ça peut être très variable. Et la forme du synchrone peut prendre aussi différentes formes. Tu peux être en formation one to many, one to one, et ça amène des typologies de formation très différentes.
T'as beaucoup plus de flexibilité. T'as beaucoup plus de flexibilité que sur l'enseignement traditionnel.
Non, je pense que l'enseignement traditionnel, c'est-à-dire si on entend en présentiel, on peut être beaucoup plus original qu'on ne l'est bien souvent. Seulement, on n'a pas forcément pris l'habitude d'essayer de nouvelles choses. Certains le font, hein, soyons clairs. Mais je pense qu'on se fixe des limites en recopiant ce que les autres font, sans penser qu'on pourrait fonctionner très différemment. En présentiel, tu pourrais tout à fait avoir, par exemple, plutôt que d'avoir de la formation one-to-many avec un prof qui dicte un cours, des élèves qui recopient des notes et qu'ensuite il y a un examen où tu dois connaître par cœur tous les trucs. En gros, que c'est un examen de mémoire. Tu pourrais fonctionner beaucoup plus par compétences. Tu pourrais travailler par petits groupes, par workshop. Certains le font déjà, tu vois, mais tu pourrais le faire plus ou ça pourrait être la base, etc. Donc, tu vois, j'imagine plein de modalités dans le présentiel. On peut faire du présentiel très, très bien, très innovant d'ailleurs, comme on peut faire du online tout pourri. Donc, ce que tu appelleras le e-learning. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi, il y a plein de modalités. C'est un peu comme des ingrédients d'une recette de cuisine. Tu peux jouer avec dans tous les sens. Et l'e-learning, la formation en ligne, est en fait qu'une modalité parmi d'autres. Voilà.
Et pour quelle raison vous avez créé Open Classroom? À quel problème vous souhaitez répondre? Pourquoi vous avez une raison d'être qui est hyper forte? Au-delà du terme juridique du terme, mais pourquoi vous existez, tu vois?
Ça vient de l'historique, en fait, du lancement à l'époque d'Open Classroom. Son prédécesseur s'appelait le site du zéro et c'était un site que j'ai lancé quand j'étais au collège. J'étais en quatrième. Et à l'époque, je voulais apprendre à créer des sites web. Mais je trouvais pas de formation pour débuter en création de sites web. J'avais 13 ans. Donc, tu vois, je vais, en fait, en librairie à la Fnac, dans ma ville à Avignon et je cherche un livre pour débuter. Et tous les livres, en fait, c'est des livres pour des professionnels dans la section informatique. Et donc, ça a généré, si tu veux, une sorte de sentiment d'injustice, de frustration, de pas être une cible de ces livres qui exigeaient vraiment 3, 4, 5 ans d'expérience dans le domaine informatique et tout. Moi, j'avais rien du tout. Et donc, ça m'a motivé à prendre un de ces livres, à apprendre et à le reformuler d'une façon accessible aux débutants. Alors, en disant que tout le monde peut apprendre, je vois pas de raison. Voilà. Des fois, on se crée des montagnes, on fait des choses compliquées pour rien. Ça arrive. Hein. Et donc, j'ai voulu un peu me démontrer et démontrer aux autres que c'était possible d'apprendre simplement. Donc, c'est ce qui a lancé la raison d'être qu'on appelle maintenant la mission d'Open Classroom, ce qui est rendre l'éducation accessible. C'est simple, mais ça vient de ça.
Accessible à tous.
Et justement, du fait aussi de différents changements, notamment avec le Covid, etc., j'ai l'impression qu'on assiste un peu à un changement de paradigme. Qu'est-ce que ça engendre aujourd'hui comme conséquence et comme perspective, le fait que tout le monde puisse apprendre par soi-même, à peu près tout?
Ça engendre pas mal de changements que la société n'a peut-être pas encore complètement intégré. En tout cas, le monde de l'éducation n'a pas complètement intégré. Puisque oui, tu vas avoir des gens curieux qui vont apprendre, qui vont s'informer, et c'est de façon beaucoup plus individualisée. Puisque si on parle juste ne serait-ce que du streaming vidéo via YouTube ou autre, tu le fais pour toi, à ta demande, au moment où tu en fais la demande. Alors qu'avant, tu n'avais pas trop le choix, ou alors tu avais encore les livres. Mais tu vois, juste l'accès était beaucoup plus complexe, il y avait moins de profusion d'informations et tout. Donc ça dépend des gens. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont pris l'habitude de se former par eux-mêmes, qui sont curieux, et qui passent beaucoup de temps à ça. Et des fois, c'est de la formation, des fois, c'est de l'infotainment, c'est un mélange de, tu vois, tu passes juste du bon temps et tu suis des vidéos rigolotes, mais en fait, tu apprends des choses. Tu peux lire dans tous les sens. En fait, ça démultiplie les possibilités, mais certains ont pensé à tort que ça résolvait le problème de l'éducation. Comme si l'éducation pouvait se résumer à un simple problème d'accessibilité de l'information. C'est pas le cas, on l'a vu. À l'époque, on a parlé de MOOC, on se disait, tout le monde, waouh, les cours en ligne des meilleures universités arrivent en ligne. Il y a plus, ça va, les gens vont tout savoir faire et ça va être nickel, etc. C'est pas ce qui s'est passé. Il y a des gens qui y vont, mais c'est plutôt certains profils autonomes, autodidactes. D'autres n'y vont pas ou ne vont pas jusqu'au bout. Donc, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe comme levier que simplement mettre à disposition une bibliothèque d'Alexandrie mondiale dans les mains de tout le monde.
Et tu dirais que c'est quoi qui manque aujourd'hui justement? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement, une forme de coaching? Est-ce que c'est le manque d'application? Est-ce que c'est les cas pratiques? Pourquoi justement tu dirais que ça ne suffit pas?
Il y a plusieurs raisons à ça. La première qui me vient à l'esprit évidemment, c'est celle du coaching. Parce que sur Open Classrooms, on a mis en place très tôt, qui s'appelle le mentorat. Et c'est du mentorat individuel qu'on fait, one-on-one. Toutes les semaines, ça te prend à peu près une petite heure. Et tu as un mentor dédié qui t'accompagne, qui fait le point sur ce que là où tu as été bloqué, qui te débloque, qui aussi joue un rôle de rôle modèle, qui te rassure, etc. Il y a plein de composantes dans cette conversation, mais parce que c'est une conversation one-on-one, elle a une nature totalement différente de ce que tu vas avoir dans une classe où il y a 20-30 personnes. Et en fait, dès qu'il y a plusieurs personnes autour de toi, tu n'oses pas forcément toujours lever la main, tu n'oses pas toujours te confier, etc. Donc tu vois, il y a avoir de l'aide dont tu as besoin au moment où tu en as besoin, c'est déjà un premier problème qui n'est pas résolu par les simples cours en ligne. Le fait d'avoir des coups de main aussi de collègues qui pourraient bosser avec toi, faire des projets, c'est aussi des choses qui se résolvent pas toutes seules. Il faut avoir une forme d'accompagnement et il faut l'orchestrer. Je crois pas qu'il faut être ultra précis, ultra directif sur la façon de faire, mais je pense qu'il faut définir les grandes lignes et l'orchestrer. Et si on n'orchestre pas un minimum, bah, il y a que les meilleurs, les déjà plus autonomes qui vont y arriver. C'est-à-dire qu'ils vont déjà aller à la librairie ou en ligne chercher tout ce qu'ils ont besoin et les autres seront laissés pour compte.
Hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous rappeler les grandes typologies d'acteurs du e-learning, plutôt sous forme de forme que les acteurs institutionnels, mais tu as déjà parlé des MOOC. Est-ce que tu as différentes formes comme ça de e-learning?
Je reviendrai un petit peu sur ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire tu as des formes synchrones totalement, c'est du téléprésentiel, certains acteurs font ça. Des écoles, notamment avec le Covid, les écoles traditionnelles se sont mis à faire du téléprésentiel parce qu'elles ont copié-collé les recettes qu'elles connaissaient, jusqu'à découvrir que c'était quand même peut-être un peu fatigant. Moi, je crois pas au téléprésentiel total parce que c'est épuisant. Moi, je fais de la visio déjà toute la journée avec Open Classroom sans travailler à distance, c'est déjà pas mal épuisant. Donc, je pense qu'il y a une question d'équilibre. Mais, en tout cas, une possibilité, c'est de faire du synchrone total téléprésentiel. Possibilité, c'est de faire du asynchrone total, et il y a plein de façons de faire là derrière. Et enfin, il y a des mix, et Open Classroom, typiquement, ça fait un mix de ça. Le synchrone étant le temps avec le mentor ou avec tes collègues qui travaillent sur la formation, et l'asynchrone étant le temps de consultation des cours, mais aussi et surtout le temps de réalisation des projets.
Ok, ok, ok. Parce que du coup, il y a des projets, vous, sur vos cours?
Alors, pour résumer simplement Open Classrooms, depuis le premier jour, on a tous nos cours sont en ligne et gratuits. On a mis ça en place et c'est un truc qui n'a jamais changé depuis le lancement en 1999, il y a 23-24 ans. Donc, tu as plus de 600 cours gratuits. Et ce qu'on fait, c'est un modèle freemium où tu peux décider de t'embarquer dans une formation diplômante, un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5. Tu peux changer de carrière, tu peux faire plein de choses. Là, à la fin, tu as donc un diplôme dont le niveau est reconnu par l'État. On a été parmi les premiers dans le monde à avoir un diplôme de niveau bachelor reconnu par un État sur une formation en ligne. Et en plus de ça, tu as des projets à réaliser et un mentor qui t'accompagne. Le fondement de ce qu'on fait, c'est une pédagogie guidée par les projets sur la base de compétences. Et j'insiste beaucoup, ça change pas mal de choses. Il n'y a pas de notes sur 20 dans nos formations. C'est uniquement une série d'une quinzaine, vingtaine de compétences à acquérir, des soft skills, des hard skills qu'on a identifiés avec les acteurs du marché, les recruteurs, sur lesquels on forme via les projets. Parce que tu fais un projet, tu vas acquérir des compétences qui sont nécessaires pour ton futur travail.
Ok, ok, ok. Très clair. Au début de l'épisode, tu nous as expliqué que aujourd'hui l'éducation était un petit peu vieillissante, mais qu'elle tentait à s'améliorer. Aujourd'hui, quelles sont les grandes tendances que tu vois sur l'éducation? Est-ce que l'enseignement en ligne se développe depuis le Covid? Je sais pas. Je sais qu'il y a eu l'apprentissage qui a été vachement poussé, etc. Est-ce que tu vois des tendances comme ça?
Des tendances dans la formation en ligne, ce que tu appelles l'e-learning, c'est ça?
D'abord plutôt sur la formation classique et puis après sur la formation en ligne éventuellement.
Tout le monde se cherche, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un poids des habitudes qui est monumental. Monumental, c'est on a mis en place il y a plus de deux siècles la formation massive avec la salle de classe, qui est celle qu'on connaît, avec un professeur sur un estrade, des gens qui prennent des notes et des contrôles à la fin, qui sont généralement des contrôles de connaissances d'ailleurs. Ce modèle était bien pensé à une époque où tu n'avais pas accès à la connaissance avec ton smartphone partout. Donc la connaissance pure était super importante. Aujourd'hui, elle est beaucoup moins. Et pourtant, plein de formations continuent à exiger un pur rappel de connaissances. C'est ce qui est assez fou. Alors, il y a des notions de raisonnement, bien sûr, derrière, mais c'est pas seulement ça. C'est vraiment du bachotage énorme de connaissances. Et ce que, d'ailleurs, les profs, aujourd'hui, pour avoir l'agrégation, par exemple, ils doivent connaître énormément de dates, de faits dans leur tête. Ils ne peuvent pas, ce qui est assez fou hein, pour moi, ne peuvent pas avoir accès à Internet pour juste checker leurs informations. Donc, tu as ce poids des habitudes, tu vois, qui a toujours pas changé aujourd'hui, avec ce mode de fonctionnement qui est celui, je dirais, de base, celui de la formation de masse, qui était bien pensé pour l'époque de l'industrialisation. On avait besoin d'avoir des ouvriers qualifiés, qui sachent un minimum lire, écrire. C'était, à mon sens, plutôt bien pensé pour ça. Et à l'époque, c'était très novateur, parce qu'on amenait tout le monde vers l'éducation. Alors qu'auparavant, c'était quand même le fait de quelques personnes plutôt riches. Donc ça, c'est chouette. Mais sauf que ce qui est moins chouette, c'est que ça fait 250 ans que ça tourne comme ça. Et que on a toujours des choses qui n'ont pas beaucoup bougé, comme des élèves avec des sacs, des cartables ultra lourds tous les jours au collège pour avoir sous format papier de tous les cours de l'année dans les matières en question. Et on a toujours un contrôle de connaissances, etc. Donc, le monde s'est pas beaucoup réveillé globalement, le monde traditionnel de l'éducation. Et là, je te parle du K-12, c'est-à-dire du primaire, secondaire et aussi du post-bac. Maintenant, évidemment, il y a des innovations, il y a des écoles qui prennent le virage, qui font plutôt de l'hybride, mais c'est très dur de changer un mode dans lequel on est habitué. Et c'est plus facile, je trouve, hein, pour un acteur qui part de rien, d'inventer des nouvelles modalités. C'est ce qu'a fait Open Classrooms. Mais on n'est pas les seuls. Je veux dire, il y a plein d'autres acteurs qui ont tenté d'autres modalités, qui ont suivi d'autres voies, d'autres qui ont fait du téléprésentiel, d'autres qui ont mélangé pas mal de typologies de formation. Ça dépend aussi du sujet enseigné, bien sûr.
On voit bien que le digital aujourd'hui donc vient adresser de nouvelles problématiques. Selon toi, c'est quoi les grands défis auxquels il faut répondre dans l'éducation, justement? Est-ce que c'est plutôt des questions d'inégalité d'accès à certaines informations? Est-ce que c'est vraiment d'aller tourner plutôt vers des nouvelles compétences?
Les défis, alors déjà les compétences, c'est très clair, elles évoluent très vite et les formations mettent toujours du temps à se mettre à jour par rapport aux attentes du marché. Déjà, il y a un premier sujet, peut-être un premier problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur le rôle de l'éducation. Est-ce que tu te formes pour avoir des compétences pour un métier? Ouais, peut-être, mais tu pourrais aussi considérer que tu fais des meilleurs citoyens qui savent vivre ensemble, ou que tu es là pour acquérir de nouvelles connaissances et produire de nouvelles connaissances, ce qui est de la recherche. Donc déjà, tu vois, c'est un premier sujet, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur la finalité. Nous, chez Open Classrooms, on a choisi, par exemple, OK, on est concentré sur un axe, je dis pas que c'est le seul et le meilleur, mais en tout cas, c'est celui qui nous occupe, c'est préparer les gens à avoir un travail. Donc on cherche directement l'employabilité. Mais pour ça, il faut être clair sur les compétences, et donc il faut... rétro-calculer un petit peu les compétences utilisées sur le marché aujourd'hui. Et le problème, c'est que ces compétences, elles évoluent extrêmement vite. Il y a un an, les outils d'IA générative n'étaient pas à ce niveau-là, ChatGPT n'était pas sorti. Maintenant que c'est sorti, je peux te dire que je dois revoir tout le référentiel de compétences de toutes mes formations parce que tu ne peux pas le laisser tel quel. Tu sais que les gens vont utiliser ces outils au quotidien dans leur travail, donc faisons pas comme si ça n'existait pas. Adaptons la formation, ce que les gens apprennent, et adaptons aussi la façon dont ils apprennent. Et ça demande un changement perpétuel. Donc, tu vois, il y a des, pour répondre à déjà cet aspect-là, juste l'aspect compétence à proprement parler, visé, il est essentiel. Et la plupart des formations traditionnelles, elles vont plutôt avoir tendance à enseigner, donner des cours, mais pas être basées sur un référentiel de compétences. Elles commencent à être poussées à ça, notamment par le gouvernement, mais n'ont pas forcément l'habitude de ça.
Et je dirais que justement, le e-learning peut amener cette vélocité et permettre de suivre un petit peu l'évolution très rapide des compétences nécessaires aujourd'hui, du fait de la facilité d'avoir accès à cette formation, de pouvoir se former en autonomie, par exemple.
Oui, ça joue, mais tu vois, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'e-learning, c'est une composante magique qui fait des bonnes formations et des formations plus à jour. Tu peux faire de l'e-learning tout pourri avec des formations qui ne se mettent pas à jour. Ça dépend de tes processus internes de mise à jour. Tout comme je pense que tu peux faire du présentiel très à jour. Donc, tu vois, je ne suis pas dans cette dualité vraiment présentiel-e-learning. Il s'avère que nous, ce qu'on fait, c'est uniquement du e-learning parce qu'on est né là-dedans, parce qu'on s'est concentré que sur ça et que c'est déjà super compliqué de bien faire une modalité comme ça. Donc, on se concentre là-dessus. Mais je ne dis pas que c'est... tout le monde fera comme ça à l'avenir. Je pense qu'il y aura toujours du présentiel. En tout cas, je l'espère. Et je considère que c'est pas forcément la bonne façon de faire pour tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est adapté. Il y a des gens pour qui ça l'est moins. Donc, moi, je crois beaucoup plus à l'individualisation du parcours de formation, des méthodes de formation. Parce que l'un de vous deux, par exemple, a besoin de apprendre mieux tout seul et rapidement dans son coin, mais plutôt basé sur des exemples. Un autre a besoin de pratiquer. Commencer par pratiquer pour bien comprendre, tu vois. Donc chacun a des méthodes d'apprentissage qui lui vont mieux que d'autres. Et ce que je crois, c'est que on doit aller vers des méthodes plus personnalisées et non pas une méthode unique qui est le prof face à la classe et tout le monde est censé apprendre au même rythme, démarrer au même moment de l'année et est supposé avoir tout appris à la même vitesse. C'est faux. La réalité, c'est qu'on voit très bien que les gens n'apprennent pas tous au même rythme et en plus n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. L'avantage de pouvoir le faire en ligne, c'est qu'on peut un peu plus facilement détriturer, découper et donc personnaliser. Oui, mais honnêtement, on pourrait aussi vachement bien le faire en présentiel pour peu qu'on ait les bons processus.
C'est hyper intéressant et moi, ça me donne envie de te poser une question. C'est est-ce que tu vois une différence entre le public et le privé là-dessus? Est-ce que l'enseignement privé est un peu plus en avance, un peu plus je sais pas, flexible, adapté à ses besoins ainsi que le public, à la fois peut-être sur un niveau collège-lycée, mais aussi peut-être sur un niveau études supérieures, au niveau de la fac, des écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, etc.
Question compliquée. Honnêtement, c'est quoi la différence déjà entre le public et le privé? C'est qui possède l'affaire et qui finance l'affaire. Et le problème, il n'est pas lié à la nature purement publique ou privée, mais à la taille de l'organisme. C'est-à-dire que tu peux avoir un organisme privé ultra massif dont les cycles de décision sont extrêmement longs et donc du coup les compétences sont pas forcément à jour et pour être un peu sclérosé, tu vois. C'est pas parce que c'est privé par nature que tu peux être beaucoup plus moderne et à jour versus public. Tu peux avoir du public complètement à jour. Pour peu que tu aies des gens brillants mis au bon endroit et travaillent correctement entre eux, tu peux faire plein de choses et ça existe et ça se voit. Donc, cette dualité, pareil, c'est comme l'e-learning versus le présentiel, le privé versus le public. Je suis pas convaincu qu'en soi, c'est porteur de différences majeures dans la capacité à innover. Par contre, la taille des organismes publics est peut-être pour eux un frein. Parce que ouais, ils décident pas forcément. Il y a des règles qui sont décidées un peu au-dessus, voire beaucoup au-dessus. Quand tu penses à l'éducation nationale, qui est quand même un peu le premier employeur de France, bah les profs, on leur dit un peu comment ils doivent faire. Et ceux qui sortent du droit chemin, j'ai envie de dire, et j'en sais quelque chose. Ma mère a été instite. Si tu es un peu trop innovant, ça peut grincer des dents des fois. Il faut savoir naviguer, tu vois. Et ça, c'est pas le problème du public. C'est le problème d'une énorme institution qui a du mal à faire confiance aux gens sur le terrain. Et je pense que ce problème, tu peux l'avoir dans le privé. D'ailleurs, je le vois dans des grandes boîtes, etc. Donc, c'est... Voilà, c'est un problème. C'est... En fait...
Pour toi, c'est plus la taille de l'organisation qui change les choses.
Ces processus, ces modes de décision. Pour faire simple, les choses iraient probablement beaucoup mieux si les entités éducatives sur le terrain étaient plus autonomes de bout en bout. C'est un vrai sujet, hein, mais... si on leur fait confiance et qu'elles peuvent faire des modes de formation différents, adaptés à leur public, on n'oblige pas à avoir une seule façon de faire, qui est celle qui est poussée par l'État. Je pense que ça, c'est l'État a un rôle évidemment de vérifier qu'il n'y a pas de dérive sectaire, etc. Tout ça, c'est très très bien. Peut mettre en place des référentiels, des référentiels de qualité, c'est déjà ce qu'il fait. Mais dire précisément. Là, je parle du public et plutôt des plus jeunes. Hein. Comment les gens doivent apprendre, à quel rythme, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, dans quelle classe. Peut-être que c'est pertinent dans certains cas, mais dans d'autres, ça l'est pas. Donc, pourquoi est-ce que l'école communale de Nice, dans ce quartier-là, elle pourrait pas avoir un autre programme du temps que, à la fin, elle retombe sur ses pattes. Aujourd'hui, il y a un peu trop de côté directif. Et donc, assez peu aussi de confiance ressentie par les enseignants sur le terrain. Et je pense que c'est ça le plus dramatique.
Et est-ce que le Covid a eu un impact sur tout ça? Au sens où, là, tu nous parles de processus, tu nous parles de longueur de la communication, communication qui est compliquée, où il y a plein de personnes qu'il faut embarquer dans la vision pour prendre une décision. Le Covid a facilité cette communication, a lissé certains process. Est-ce que tu as vu un impact ou pas forcément?
Ouais. Le Covid a eu un impact assez important puisqu'il a propulsé tout le monde dans un monde où le présentiel n'existe plus, en gros, brutalement et pour beaucoup sans préparation. Nous, on était ultra préparés puisqu'on faisait que ça. On a eu beaucoup de volume à gérer aussi, c'était un autre problème. Mais on avait l'avantage d'être plus scalable, on arrivait plus à passer à l'échelle, là où la plupart des gens se sont demandé un petit peu comment faire, voire sont venus demander un peu comment on faisait. Mais c'est pas forcément facile à résumer en quelques phrases. C'est aussi beaucoup de culture, beaucoup de processus et de façon de fonctionner. Donc, l'impact, il est que les gens ont découvert que c'était possible. Certains ont découvert qu'ils détestaient, d'ailleurs. Comment dire? On est revenu à une forme de normalité, mais on a gardé un certain nombre de souvenirs, pour ne pas dire parfois de séquelles de cette expérience. Et ça reste. Je le vois dans les entreprises notamment qui continuent à recruter pas mal à distance et qui embauchent des gens de façon un peu beaucoup moins souvent au bureau. T'en as qui le font, mais t'en as qui le font pas. Open Classroom, typiquement, est devenu entièrement remote. Et donc, les gens, on peut les embaucher un peu partout en France, voire même aux États-Unis, au Royaume-Uni. On a des bureaux, mais c'est beaucoup plus petit. Donc, ça a changé de modalité de fonctionnement. Ça, c'est pour le côté entreprise et mode de travail. Mais pour la formation, qui est un petit peu l'antichambre aussi du travail, ça nous a permis de découvrir que c'était aussi possible. Donc, oui, il y a des restes. Il y en a plusieurs. Je regrette juste que ça ait été aussi violent. Et donc, du coup, les gens sont arrivés non préparés et ont copié-collé du présentiel pour faire du téléprésentiel. C'était douloureux. Ça n'a pas à être aussi douloureux que ça. Mais je pense qu'on retient la possibilité de faire pas mal de choses à distance. Je suis pas sûr que ça revienne, en tout cas, comme on l'a vécu pendant le Covid. Ça, c'est clair.
Est-ce que c'est quelque chose qui a modifié les attentes des consommateurs, autant chez les particuliers que même, enfin, sur l'éducation ou la formation chez les professionnels, en tout cas de votre point de vue?
Ça a modifié un certain nombre de choses. Sur le domaine de la formation, c'est moins surprenant que ça se passe à distance qu'avant, c'est sûr. On choque un peu moins les gens en disant qu'on fait les choses à distance. Selon les sensibilités, selon les endroits, etc., il y a des gens qui vont nous dire on aimerait qu'il y ait un peu de présentiel. Mais ça va vraiment dépendre des gens. Je pense qu'en tout cas, on garde le fait que c'est possible en tête. Le fait que ça peut pas se faire sans préparation, je pense que ça c'est des souvenirs importants. Et après il y a des processus nouveaux, mais il y a tellement de milliers de processus cachés dans la formation que c'est difficile de tous les lister un par un. Je peux donner juste un exemple, la vente elle-même de la formation, le processus juste de vente, il se fait beaucoup plus à distance qu'avant. Les commerciaux qui faisaient systématiquement des rencontres en présentiel, des déj et tout ça. Aujourd'hui, j'ai des commerciaux qui vendent sur la France, mais qui habitent dans des pays autour de la France, en Europe.
Et ils ont les mêmes performances ?
Eh ben, ça dépend, justement. C'est une bonne question. Pour ceux qui sont plutôt les nurtureurs et qui vont accompagner les clients qu'ils connaissent déjà, ça fonctionne bien. Pour ceux qui vont à la chasse, certains y arrivent bien, d'autres ont plus de mal. Globalement, en tout cas, ce qu'on a observé, c'est que les clients en face, eux attendent un peu plus que ça se fasse à distance, même le rendez-vous commercial. Alors qu'avant c'était impensable. Tu vois, c'est pas juste nous, c'est le client en face maintenant qui nous dit.
Pas dispo. Ouais, moi je maintiens, moi je force à que ça soit en face-to-face et que les gens se voient réellement, en tout cas sur les premiers échanges, pour c'est une vraie relation. Une fois que tu as une vraie relation, la visio, là, se passe beaucoup mieux. Mais pour les premiers échanges, faut tisser cette relation qui est émotionnelle, qui est presque charnelle, ouais. Où tu sens la personne. Je trouve que c'est important. Et du coup, l'enseignement en visio, tu vois, moi, j'ai essayé. Je suis pas transcendé parce que je trouve qu'il y a ce même truc, c'est que pour bien apprendre, faut que le prof il transpire son cours, faut que tu le sentes. Que tu sens vraiment le cours animé, et ça, je ne le retrouve pas en visio.
Mais c'est parce que tu as plusieurs façons de faire, encore une fois, de la formation et de la formation en ligne. Si tu prends ce que tu connais de la formation présentielle, tu peux du coup te plaindre que derrière un écran, tu n'as pas toute l'animation, tu vois, le côté un peu chef d'orchestre, rockstar du prof. Mais c'est typiquement nous, pas ce qu'on vise. On fournit des ressources dans lesquels les gens vont piocher et non pas une expérience dans laquelle les gens s'assoient dans un siège et comme s'ils allaient au cinéma, si tu veux. On n'est pas sur un mode cinéma.
Tu crois au mixte d'avoir la moitié, par exemple, d'avoir, je sais pas, 50 étudiants dans un amphi et d'avoir 15 000 étudiants en visio?
Compliqué.
Je te pose la question parce qu'il y a des écoles qui le font. Hein.
Ouais. Non, c'est compliqué. Tu peux faire des choses, bien sûr, mais c'est pas la même expérience. Non, là, c'est vraiment, vraiment compliqué. Je peux te customiser une formation en ligne pour toi, mais si elle est sur la même base qu'une formation présentielle, ça va être difficile. Je sais qu'il y a des gens qui le font, hein, mais et c'est pas pour dire qu'il y a rien à en tirer, mais c'est compliqué. C'est déjà compliqué à faire. Là, on se rajoute un niveau supplémentaire de difficulté, je trouve.
Et je trouve ça intéressant que tu mentionnes l'expérience, en tout cas au sein des formations, c'est quelque chose qu'on peut négliger des fois. Mais justement, quelles sont vos pistes ou quelles ont été vos pistes pour créer vraiment une expérience derrière vos contenus et pour engager les gens malgré la barrière, on va dire, de l'ordinateur? Et vraiment être pris dedans sans aller sur son téléphone la moitié du temps, sans faire des trucs à côté, tu vois, comme on pouvait le faire.
On a un objectif, enfin, on travaille par objectif. Les gens doivent acquérir des compétences. Et donc, on mesure très précisément l'acquisition des compétences en continu. Si ta formation, elle dure 8 mois, on peut voir les compétences que tu as acquises, à quelle vitesse et comment tu te compares avec tes collègues et comment tu te compares avec la vitesse attendue de formation. Donc, on a déjà ce premier élément où on peut totalement s'adapter. Le deuxième, ce que tu parlais tout à l'heure de prof qui transpire et que tu sens dans sa présence, etc. Ça dépend quelle relation tu as. Si c'est un amphi de 150 personnes, est-ce que tu prends vraiment le temps d'avoir les réponses à tes questions, d'échanger avec cette personne? Peut-être que tu auras de la chance et que tu l'auras, mais tout le monde n'a pas forcément, de façon égale, un accès aux personnes qui ont l'expérience. L'avantage de la formation en ligne telle que nous on l'utilise, c'est qu'on a mis en place du mentorat individualisé, et donc tu as un temps absolument dédié toutes les semaines avec une personne qui connaît ton avancement, qui voit où tu as bloqué, qui a tout l'historique. Tu vois, enfin vraiment, on a un fichier complet de ce qu'a fait l'étudiant et qui peut débloquer la personne en fonction de ses besoins. Ce qui est du coup une façon de rester beaucoup plus proche de la personne. Une chose qui serait plus difficile à faire dans un format one to many en présentiel ou en ligne. Si on faisait pas du mentorat individuel sur Open Classrooms, je pense qu'on n'en serait pas là où on en est. C'est une combinaison d'objectifs par compétences précises qu'on peut suivre avec du mentorat individuel qui débloque la personne au moment où elle en a besoin. Des petites touches de synchrone sur un ensemble asynchrone, en fait.
Et un modèle comme Open Classroom, est-ce qu'il est reconnu par des acteurs traditionnels? On peut penser des grandes banques, des grands cabinets, etc., comme une formation de la même qualité qu'un enseignement un peu plus classique, type grande école.
Ils s'intéressent en réalité à la, en général, hein, au diplôme et pas à la modalité de formation. Il y a des a priori, hein, soyons clairs, il y a des a priori, et il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, non, ça c'est quelqu'un qui fait de la formation en ligne, c'est tout pourri, c'est l'industrie, tu vois, mais c'est lié à des méconnaissances qui se fait. Il y a des bons acteurs de la formation en ligne, il y a des mauvais acteurs, et en présentiel, il y a une catastrophe partout. Et il y a des très bons qui font des formations présentielles, tu vois. Donc, est-ce que c'est parce que c'est online ou présentiel? Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc moi, ce que j'observe, c'est qu'ils regardent d'abord les certifications, les reconnaissances qu'il y a derrière. C'est le drame parce qu'en fait, personne comprend exactement le magma de certification et de type de certification qui existe en France. Mais généralement, ils sont satisfaits à partir du moment où tu as une reconnaissance par l'État, à un niveau équivalent bac plus 2 à bac plus 5, ils sont contents. Ils cherchent d'abord, mais c'est un peu absurde, hein. Ils cherchent d'abord pour beaucoup des niveaux les plus élevés possibles comme bac plus 5, alors que leurs attentes pourraient très bien satisfaire de quelqu'un beaucoup plus ciblé avec les bonnes compétences, mais qui n'a pas fait forcément 5 ans après le bac, que quelqu'un qui a un bac plus 5. Donc, je pense qu'il y a un problème, simplement, c'est que les recruteurs, pour l'instant, ne recrutent pas sur compétences. Ils recrutent sur diplôme et année d'expérience. Je pense qu'on peut pas parler de la formation sans parler de l'étape de recrutement derrière. Eh ben, c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire de dire je veux quelqu'un qui a un bac plus 5 avec 10 ans d'expérience dans le customer management? Il pourrait avoir 10 ans d'expérience toute pourrie, d'ailleurs, avec une école toute pourrie, et quand même fitter un peu la description. Donc, ça, c'est un peu un piège. Le monde auquel je rêve, c'est un monde où l'offre d'emploi liste une dizaine de compétences et que les candidats, ils sont évalués sur ces compétences. Mais ça impose que le recruteur, le manager, sache quelles compétences il attend. Et beaucoup de gens ne savent pas exprimer les compétences qu'ils attendent. Le diplôme est un proxy pour ça.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui reconnaissent la formation Open Classroom au même titre qu'une formation centrale, EDEC, ESCP, INSA, Schema, HEC, Polytechnique, Normal Sup?
Ça va dépendre de ton recruteur. Si ton recruteur, il est notamment une ESN avec des grilles ultra précises et qu'il se vend auprès d'acteurs institutionnels prestigieux et qu'il veut, voilà, il va prendre des polytechniciens parce que personne n'a été viré pour avoir embauché un polytechnicien ou un HEC. Okay. Mais sinon, le marché de l'emploi est tellement tendu, les recruteurs ont tellement du mal à trouver les compétences qu'ils ont largement ouvert en termes en termes d'attente. Sinon, on ne peut pas continuer à se plaindre qu'il n'y a pas assez de gens avec les bonnes compétences, mais on ne recherche que des formations qui te sortent une cinquantaine de diplômés par an. Tu vois, ça, c'est un vrai sujet. Et donc, ce que j'observe, c'est dans plusieurs pays, à commencer par les États-Unis, même le diplôme ne compte plus. Ils retirent l'exigence du diplôme et ils vont chercher plutôt des gens qui ont des compétences. Donc, ils commencent à exprimer en compétences. Donc, pour répondre franchement à ta question.
Mais ça, c'est dans les... Cette idée d'enlever le diplôme, elle est très présente dans le discours, dans les faits. Je trouve que, oui, il y a un mouvement qui s'initie. Après, il n'est pas tant
non,
que ça
généralisé. Non, il n'est pas encore généralisé. J'ai espoir qu'il le soit. Et pourtant, je vends des diplômes, hein, je te dis ça clairement. Mais c'est compliqué pour les recruteurs parce qu'ils ne savent pas encore, je pense, exprimer en compétences et valider les compétences. Donc, ils utilisent le diplôme comme étant un proxy. C'est tout le sujet.
OK.
Et comment aujourd'hui on forme les gens à développer des compétences plutôt que des connaissances ? Est-ce que ça passe par des études de cas ? Comment aujourd'hui on peut amener aussi vers ce modèle-là plus que le modèle très traditionnel dont tu nous parlais au début ?
Déjà, en construisant sa formation à l'envers, c'est-à-dire en partant de l'étape du recrutement, qu'est-ce qui va être attendu ? Quelles compétences qui vont être sur le marché attendues, et en construisant les exercices, les examens qui vont être une preuve de ces compétences. C'est ce qu'on fait. Nous, chaque fois qu'on fait une formation, on va voir, par exemple, pour le métier du UX designer, des gens qui sont UX designers, des recruteurs du UX designer, on en déduit des compétences et à ce moment-là, on crée des projets qui chacun vont valider une, deux, trois compétences à la fois. Et seulement une fois qu'on a listé les projets, qu'on a écrit le contenu des projets, on se met à faire les cours qui serviront de support aux étudiants pour réussir les projets. Tu vois, donc on finit par le cours. Voilà comment on fait une formation guidée par les projets et orientée compétences. C'est juste, il faut repartir de comment tu conçois ton curriculum.
C'est important. Et c'est également comme ça qu'on... En tout cas, qu'on participe à avoir des industries qui sont beaucoup plus productives, en fait, finalement. Puisqu'on répond vraiment aux attentes de ce qui est recherché sur le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on sort avec un diplôme, parfois, on a l'impression de ne matcher aucune offre d'emploi, alors que ça fait 5 ans qu'on apprend.
Mais c'est tout le problème, c'est que le marché est très peu rationnel, très inefficace dans la façon dont il fonctionne. Encore une fois, je reviens à ce que je te disais, c'est qu'il y a des recruteurs qui attendent juste une marque, comme HEC ou Polytechnique, et qui se plaignent qu'il n'y en ait pas plus qui sortent. Mais des fois, il y a une limite aussi par les murs. Et par contre, ils ont des attentes de compétences. Il y a des gens qui ont des compétences, mais c'est des gens qui ressemblent moins à ceux qu'ils ont l'habitude de voir. Ils sont juste des personnes qui sont plus issues de la diversité et qu'on ne voit pas dans ces jobs. Et en fait, on passe à côté d'énormément de valeurs simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de recruter et de manager suffisamment par compétences. Je pense que c'est plus difficile que ce qu'on fait actuellement. Mais que le monde doit s'améliorer, on doit le faire et donc il faut juste qu'on level up, il faut qu'on monte en niveau dans le recrutement, dans le management et qu'on soit précis sur les compétences, sur les niveaux de compétences, sur les preuves de ces compétences. Et à ce moment-là, le monde de la formation, il peut commencer à matcher ça. Quand c'est pas le cas, quand on n'a pas de rationnel sur les compétences attendues, eh ben on en revient à oh bah tu me plais parce que t'es jolie, tu me ressembles, t'es la même couleur de peau que moi, etc. Ou tu as fait telle école connue, ça me rassure. Ce qui est quand même une façon extrêmement...
Ouais, on recrute à l'aveugle aujourd'hui. Hein.
Voilà, et je trouve qu'il y a une façon relativement, pour pas dire extrêmement simpliste de faire. Donc, il va falloir faire mieux. Mon enjeu, c'est de convaincre là-dessus et de le rationaliser. Je suis un peu de formation ingénieur, donc j'aime bien rationaliser les trucs globalement. Et comment je le rationalise ? Eh ben, je montre l'adéquation des formations avec l'emploi. Je montre qu'il y a des recruteurs qui prennent des étudiants issus de cette formation et qui les gardent dans la durée. Et je pense que c'est le futur d'éducation. C'est qu'on va enfin cesser à dépenser des milliards et des milliards dans la formation un peu partout aux azimuts en disant « Ok, on a fait le job, il y a des gens qui se forment, entre guillemets, mais on n'a aucune idée de la qualité de ces formations. » Tu peux avoir des bons et du mauvais partout, y compris dans les formations prestigieuses, soyons clairs. Donc, on va commencer à parler en termes de taux de retour d'emploi à l'issue de la formation. Ça serait quand même pas mal. Et pour ça, les choses commencent à se mettre en œuvre, tout doucement, hein, pour être clair. Les États commencent à mettre en place des référentiels en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, je le vois pas mal, qui vont commencer à comparer les formations sur le taux d'emploi en sortie de formation.
C'est intéressant parce qu'on forme les futurs recrues. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par former les recruteurs aux compétences qu'ils doivent chercher notamment, ou au moins leur donner des bases de compréhension pour savoir dans quelle direction ils doivent partir selon leur verticale de recrutement?
Oui, je pense qu'il y a un sujet de formation au recrutement, au management aussi, pour le faire par compétences. On le fait en partie sur certaines de nos formations RH, pour être clair, mais il y a un enjeu qui est assez énorme. Je pense qu'il faut, on peut pas résoudre le problème de la formation sans résoudre l'enjeu du recrutement, et donc il va falloir effectivement faire des efforts en ce sens-là. Mais mon rêve, pour être clair, c'est que derrière, on est capable de dire telle école, telle formation de telle école, le taux d'emploi au bout de 6 mois, il est de 78%, et le salaire médian, il est de 46 000 euros, etc., etc. Et qu'on puisse voir de façon transparente, continue, sur toutes les formations, j'insiste, toutes les formations, le taux de réussite et le taux d'emploi. Je pense que ça objectiverait beaucoup plus la qualité de la formation que ce qui se fait aujourd'hui, qui est « Ah ouais, ton diplôme, oh, ta marque, est-ce qu'elle est connue? Est-ce que c'est online ?» Ces discours-là, qui sont évidemment très courants encore aujourd'hui, je considère qu'ils ne font pas avancer le schmilblick, et que si on pouvait parler d'adéquation de la formation avec le monde de l'emploi, et qu'on puisse le prouver, et on a les moyens de le faire, hein. C'est juste qu'il faut qu'on se motive tous à le faire ensemble avec les mêmes standards, et ben à partir de là, on pourrait améliorer les choses. Tant pis si les formations, on va découvrir hein, que des formations amènent moins un emploi que ce qu'on pensait, mais au moins, on a des éléments pour travailler dessus. Au moins, les créateurs de ces formations-là peuvent bosser dessus. Ce serait mon rêve, pour être clair.
Un rêve qui sera peut-être réalité. Tu vois que le e-learning, il a vachement évolué depuis que vous avez créé Open Classroom. Dans quelle direction ça va aujourd'hui? Est-ce que ça se généralise? Est-ce que toutes les écoles, je sais qu'aujourd'hui beaucoup beaucoup d'écoles supérieures lancent des activités de e-learning. Est-ce que c'est quelque chose qui va se généraliser et venir en complément d'un programme PGE peut-être plus classique, par exemple? Je sais que aujourd'hui il y a des écoles qui mixent déjà un petit peu les deux. Est-ce que c'est quelque chose qui va se généraliser ou pas sûr?
Faire de la formation en ligne.
Faire de la formation en ligne et mixer ça avec de la formation en physique.
Oui, ça se fait déjà beaucoup. Hein. Ce que les acteurs appellent l'hybridation des méthodes, je sais que dans plein d'écoles, ça se fait déjà, petites et grandes écoles d'ailleurs. Ça va continuer, oui, c'est sûr. Les écoles, elles, stratégiquement, elles l'ont bien en tête en tout cas. Elles le délaissent pas, elles considèrent que c'est important. Par contre, elles vont te dire, bon, on a un campus, on a investi dessus, il y a une vie étudiante, etc. Donc, c'est important que ce soit hybride.
Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important qu'ils fassent ce côté digital?
Ouais. Je pense qu'ils y voient capacité à être plus flexibles dans les formations qu'ils font, de plus individualiser certains aspects. D'autres sont beaucoup plus pragmatiques et pensent que ça va leur permettre de réduire certains coûts. Je pense que c'est un peu réducteur de dire que c'est que de la réduction de coûts, pour être clair, mais c'est un axe qui revient assez souvent. Voir ça leur permettra de sortir de la limite des murs, ça c'est un vrai sujet. C'est que quand tu fais une formation présentielle, tu as des 4 murs qui forment ta salle de classe. Et une fois qu'ils sont pleins, bah, en fait, il faut construire d'autres murs.
C'est un grand jeu, les places, escalier,
tu vois. Ouais. Il faut construire un nouveau campus. Donc, les formations présentielles, elles avancent par à-coup. Alors qu'une formation qui est purement en ligne, pour le coup, et pas hybride, hein, juste purement en ligne comme on le fait Open Classrooms, on a une évolution beaucoup plus continue. On peut scaler un par un et pas par coup de 50 ou de 500 étudiants. C'est un avantage d'être plus flexible, je pense, par contre, pour être un peu plus réactif aux besoins du marché. Mais par contre, j'insiste, je pense que les campus ont beaucoup d'avenir, et particulièrement pour les jeunes.
Oui,
je pense
oui,
que
oui.
C'est un lieu de sociabilisation essentiel.
Ouais.
Mais tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du K-12, du secondaire, post-secondaire? Est-ce qu'on parle de la maman qui se reconvertit à 43 ans et qui a déjà des gamins? C'est pas les mêmes cas de figure. Il y a plein de points communs, mais voilà. Ces gens-là, par exemple, le deuxième cas que je te raconte,
besoins,
est beaucoup plus sensible à la formation entièrement en ligne, à la possibilité d'avancer à ce rythme, de commencer à n'importe quel moment. Ça, c'est un atout clé.
Est-ce que ça rend l'éducation plus accessible? En tout cas, est-ce que ça ne réduit pas les biais qu'il peut y avoir sur l'accès à l'enseignement?
Encore une fois, tu dis, est-ce que ça réduit les biais de faire de la formation entièrement en ligne?
Ouais, bah, si tu fais de la formation en ligne, tu n'as pas le... j'ai envie de dire, le biais de l'embauche dans l'école, le biais de l'acceptation dans l'école. On sait que, par exemple, pour entrer dans une école de commerce ou une école d'ingénieur, tu as un entretien. À l'entretien, tu prends ainsi les gens un petit peu en fonction de comment ils se présentent, si ils t'inspirent confiance ou pas.
Oui, enfin là, pour le coup, c'est pas le fait que ce soit en ligne qui peut fondamentalement changer ça, parce que tu fais aussi des admissions, tu fais aussi des entretiens. Tu vois, c'est, enfin, qu'on soit clair, c'est
le processus
est extrêmement
est
rigoureux,
même.
Sur une formation en ligne comme Open Classroom. Tu dois postuler, on te demande plein d'informations, on te demande des preuves de ce que tu avances, on te demande de présenter ton projet. On te le teste, on te le challenge, on t'oriente vers une autre formation s'il y a besoin. C'est pas juste tu cliques, tu ouvres une page web et tu fais de la formation, quoi. Il y a tout un, et en plus c'est des règles sur lesquelles on est imposé, parce qu'en tant qu'école, on a tout un ensemble de règles qu'on doit suivre à ce niveau-là. Donc, tu vois, tu pourrais mal le faire en présentiel comme tu pourrais bien le faire en online et vice versa. Encore une fois, la frontière entre le online et le présentiel, elle est pas aussi forte que ça.
Ok. Ouais, ok. Je pensais que c'était un peu plus la rupture était
non,
un petit peu plus
tout.
Marquée.
Non.
Ouais.
Mais attends, juste me permets un truc là-dessus.
Par contre, il y a une question d'inclusion.
C'est pas parce que ton école est en présentiel que il va forcément y avoir un processus d'admission et qui va lui-même avoir lieu en présentiel. Je vois des écoles qui font des processus d'admission complètement online alors que c'est des écoles présentielles. Et mon école d'ingénieur m'a recruté sur dossier. Elle n'a même pas vu ma tête, m'a même pas demandé de me présenter. Elle a dit ouais, toi, je te prends. Donc j'ai été admis en tant que grand admis, je peux dire, parce que j'avais des bonnes notes. Tu vois, donc et ça c'est une école présentielle et c'était il y a 20 ans.
Par contre, il y a une question d'inclusion au niveau géographique. Ça c'est un vrai enjeu, te dire qu'on n'est plus obligé forcément de, pour quelqu'un qui habite dans un endroit plus reclus et qui veut se former à un nouvel type de métier, il y a un vrai plus-value.
C'est très net. Ça c'est très net, c'est que du coup on essaime partout en France et dans le monde. Et on a des gens qui le disent, ça leur permet d'accéder à de la formation qu'ils n'auraient pas pu faire autrement, parce qu'il n'y avait pas forcément de campus à proximité. Mais il y a un deuxième aspect, c'est celui, tel qu'on fonctionne en tout cas, de l'ouverture perpétuelle. Tu es capable de rentrer en formation à n'importe quel moment. Tu n'attends pas que la rentrée des classes soit en septembre. Et d'ailleurs, c'est le truc qu'on doit expliquer aux recruteurs qui prennent des alternants. Eux, ils pensent que la rentrée des classes est en septembre. S'ils ont loupé de recruter un alternant en septembre, c'est foutu. Alors qu'on en fait en octobre, en novembre, en août, en mars. Sans problème, tu vois. On a tellement changé le paradigme, parce qu'on n'a pas l'habitude dans nos têtes de ça, que le monde du travail n'a pas encore forcément intégré ces possibilités-là. Ça, c'est une flexibilité qui ouvre l'éducation à tous. Alors qu'en temps normal, dans une formation qui commence en septembre et qui a des durées d'une année, si tu as loupé la rentrée des classes, des fois, c'est un peu chaud et tu perds un an, quoi. Ou tu t'es trompé de formation.
Oui, également, il y a des gens qui font un mois.
Au bout de trois mois, c'est arrivé à ma femme, typiquement. Elle est allée à une formation classique, mais très bien, prestigieuse, tout ce que tu veux. Mais au bout de deux mois, elle pétait un câble. Et ben, en fait, elle était coincée parce qu'elle se disait, en fait, je peux pas enchaîner sur une autre formation. J'ai raté le train. Ça, c'est un problème.
Aujourd'hui, avec l'e-learning, même sur des formations plus longues, type Open Classroom, on a la possibilité justement de tester, on va dire, une semaine, deux semaines, des modules pour voir si cette voie nous intéresse ou pas du tout.
Tu as la possibilité de tester tous les cours d'Open Classroom pour voir déjà si tu penses qu'on fait des bons cours et que tu comprends bien ce qu'ils racontent. Mais si tu veux vraiment pratiquer, prouver les compétences, avoir un diplôme et l'aide et l'accompagnement d'un mentor, là, tu dois t'embarquer effectivement dans tout ce processus d'admission dont je parlais, montrer patte blanche et ensuite être lancé dans la formation.
Juste pour terminer sur ces aspects d'inclusion, est-ce que c'est un enjeu selon toi aussi pour redynamiser certains territoires ? On sait que, par exemple, souvent les formations d'e-learning sont plutôt tournés vers des métiers digitaux un peu plus modernes, même s'il y a aussi des formations à des métiers entre guillemets plus traditionnels. Tu penses que c'est aussi un moyen d'apporter tous ces aspects-là et de dynamiser des territoires qui sont un peu plus reculés, où il y a moins ce type de profil in fine
Ouais, non, complètement. Complètement. Encore une fois, si on fait la carte des étudiants qu'on voit chez nous, on va en voir un peu partout. Et c'est des fois des gens qui d'ailleurs ont des handicap qui les empêche de se déplacer à plus de 30 km de chez eux et donc ils sont contents de pouvoir avoir une formation à cet endroit-là, etc. Oui, donc ça permet de redynamiser les territoires dans le sens de la formation. Après, il faut qu'il y ait des recruteurs sur le chemin. Ça dépend aussi du dynamisme du marché de l'emploi en lui-même. Mais ce que j'observe par contre qui est nouveau, c'est que les gens se mettent à leur compte. Et donc, s'il n'y a pas de recruteurs, il y a des gens qui commencent en revanche à créer leur emploi et habitent peut-être dans un trou paumé, entre guillemets, mais font un travail entièrement à distance de qualité. Et ça, je le vois. Ça, je le vois clairement. c'est une tendance forte, hein. Des gens qui ne veulent plus être salariés et qui veulent être freelance.
Ouais. Et une tendance forte qui parle bien à Paul, je crois. Est-ce que tu vois des tendances sur les formations qui sont suivies par vos étudiants? Je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants en ce moment qui suivent des formations sur comment faire des prompts, qu'est-ce qu'une IA, comment ça fonctionne, ou je sais pas, des tendances sur un peu plus comprendre la société, comprendre comment elle évolue, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais ou ça a pas tant que ça a évolué, c'est assez stable depuis la création d'Open Classroom?
Ah non, non, les attentes des gens sont très différentes, les formations évoluent régulièrement, on met à jour 30% de notre catalogue tous les ans. 30% d'un catalogue de 500-600 cours, c'est des millions et des millions dépensés chaque année pour la mise à jour. Certains domaines évoluent tellement vite, comme la programmation front-end en JavaScript. Il y a des nouveaux frameworks qui sortent tous les 4 mois, que tu dois trouver le moyen d'être le plus à jour possible. C'est un vrai, vrai sujet. Donc, les attentes des gens évoluent très, très vite en fonction des nouvelles technologies qui sortent. Récemment, sur l'IA et savoir utiliser l'IA dans un contexte professionnel, on a de la demande très forte, notamment des entreprises pour upskiller leurs collaborateurs, c'est très très net. Et donc c'est pour ça qu'on a sorti une formation sur utiliser ChatGPT dans un milieu professionnel et qui est très demandée. Voilà, donc j'observe un peu ce genre de choses. Les gens suivent effectivement les trends technologiques quand même pas mal, globalement.
Et sur le côté soft skills et compétences, c'est quoi selon toi aujourd'hui, dans un monde qui est très mouvant, très dynamique, les compétences phares, soit de ce que vous voyez en termes de demande, soit de ton point de vue plus personnel, les compétences phares aujourd'hui qui sont intéressantes à développer en entreprise ou même à son compte?
Des compétences de travail en équipe, de collaboration, compétences d'esprit critique. Parce que tu dois justement être critique sur ce que l'IA va te renvoyer comme information ou quelle information tu trouves sur Internet, etc. Sont assez attendues. Celles d'innovation, de créativité sont essentielles.
D'accord.
Aussi.
Type design thinking, ce genre de choses, c'est ça?
Ouais. Ça, c'est les compétences transversales dites soft skills les plus demandées sans être vraiment bien validées encore aujourd'hui au moment du recrutement, toujours, mais qui dans le fond sont très pertinentes. C'est des choses qui te distinguent notamment de la machine, là où tu peux laisser la machine travailler sur des tâches un peu répétitives et un peu moins créatives. Tu peux travailler sur des aspects de créativité ou de collaboration avec d'autres collègues. Et donc ça, c'est des compétences qui se développent. Mais trop de temps encore aujourd'hui est passé à évaluer comme compétence sa capacité à ingurgiter de l'information et à la retrancher.
Oui, mais c'est vrai que souvent les formations, en tout cas, les catalogues sont quand même plutôt orientés hard skills, de ce que j'ai l'impression, en tout cas moi de ce que je vois, et on a l'impression qu'il y a un peu un recul, ou en tout cas c'est quand même quelque chose qui est moins valorisé, ou peut-être les gens ont moins conscience, je sais pas exactement.
Les entreprises sont très demandeuses en général de ces compétences-là, et les formations, elles font souvent des hard skills de façon consciente et des soft skills de façon inconsciente. Ce qui n'est pas si grave au final, parce que si les étudiants développent les soft skills de façon inconsciente, mais qu'elles sont là, pourquoi pas? Mais je pense qu'on pourrait conscientiser un peu plus la formation en soft skills que ça ne l'est aujourd'hui, de façon générale.
Est-ce que tu remarques un changement de paradigme vis-à-vis de la formation du fait du raccourcissement des carrières et peut-être de la disparition du mot carrière, où aujourd'hui les nouvelles générations sont beaucoup plus enclins à faire un parcours professionnel et non une carrière, et un parcours qui corresponde à leurs envies, à leurs ambitions du moment, et donc peut-être à se reformer à plusieurs reprises au cours de leur carrière, et donc suivre des MOOC, suivre des formations, etc. Là-dessus, est-ce que tu constates une vraie tendance? Est-ce que tu as des idées des pourcentages à nous donner, quelques chiffres ou pas?
Oui, ça fait un moment quand même la tendance à l'installer, mais la tendance à s'accélérer. Des gens qui continuent à se former pour le besoin de leur métier. Je ne sais pas si tu travailles dans le développement informatique. Je ne vois pas comment tu peux faire si tu n'as pas fait de la veille régulièrement. Pendant 6 mois, tu n'as pas fait de veille. Je ne sais pas comment tu fais déjà. Et pas mal de domaines sont comme ça. Ne serait-ce que pour les évolutions réglementaires, tu travailles dans les RH, des choses comme ça. Tu as quand même besoin de suivre un minimum ce qui se passe. C'est juste que...
Tu suis ce qui se passe. Tu ne fais pas forcément des formations très techniques sur les hard skills.
Pas toujours. Mais ce que j'observe, en tout cas, c'est plus des besoins de changement de carrière, des changements d'aspiration. Les gens supportent moins qu'avant d'être dans les mêmes rails jusqu'à la fin de leur vie active et font parfois des changements assez radicaux de vie. peuvent travailler dans le conseil, puis ensuite dans l'agro-tech, puis ensuite dans tel autre domaine. Et il y a des rythmes de changement qui ont plutôt tendance à s'accélérer. On dit que les générations qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui vont changer de job complètement. Genre vraiment, c'est notre carrière, entre 3 et 15 de fois dans leur vie active. 3 fois, ça paraît déjà pas mal, tu vois. C'est genre, tu peux passer 10 ans, 15 ans sur un truc et ensuite tu changes. Mais là, ce qu'on dit, c'est que les gens vont non seulement faire ça minimum 3 fois, mais ça peut monter à plus de 10 fois. Et des fois, ça sera en parallèle, ce qu'on va appeler les slasheurs, qui vont pas, même pas satisfaire d'un seul métier à la fois, mais vont apprécier faire 2 choses différentes à la fois. Ça, on l'observe aussi comme tendance.
C'est hyper intéressant. Est-ce que là-dessus, ça influence vous, votre formation, les formations que vous proposez, etc. Est-ce que tu constates des nouveaux métiers qui se créent? Je sais pas, par exemple, être prompt engineer.
Est-ce que c'est tarte à la crème, le prompt engineer.
Est-ce que c'est quelque chose qui existe réellement et là-dessus, il y a des formations et tout, ou c'est bullshit à fond?
Non, c'est pas bullshit à fond parce qu'il faut savoir parler à l'IA, mais sauf que dans un an, la règle aura complètement changé. Et puis ensuite, peut-être dans 2-3 ans, le mot prompt engineer, on l'aura complètement oublié parce qu'en fait, on s'en foutra complètement. Donc, l'erreur, c'est les gens qui essaient de se sécuriser en allant vers un métier qui a de l'avenir. Ça n'existe pas.
C'est très intéressant.
À mon sens, ouais. Je suis désolé de vous le dire, c'est un peu dur.
C'est très mouvant.
C'est un peu de but en blanc sans prévenir. Mais j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, je fais des formations par rapport au développement informatique? Parce que je vois que l'IA, elle peut coder. Donc, voilà. Et c'est juste un layer supplémentaire, un niveau supplémentaire d'abstraction et une aide supplémentaire. Ça change, ça chamboule les métiers, c'est clair. Tu gagnes du temps, tu es plus productif, mais ça ouvre la place à faire de nouvelles choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant parce qu'on était concentré à faire des choses un peu répétitives. Donc, je répète que il faut aller vers les domaines qui nous passionnent, le truc dans lequel on se sent bien, c'est vraiment l'essentiel. Ensuite, se faire confiance et pas essayer de suivre la voie de tout le monde, mais plutôt la sienne. Ça, c'est vraiment un truc clé dans l'orientation. Et je vois beaucoup de gens qui essayent trop de shooter de façon parfaite la formation sur 5 ans à l'avance ou 10 ans à l'avance, ce qui est juste impossible. Moi, j'en suis totalement incapable. Pourtant, je suis globalement assez au fait de ce qui se passe, de ce qui évolue. Et par exemple, dans un an, je suis incapable de te dire comment l'IA aura évolué et à quel point elle aura changé le métier de développeur. Moi, tout ce que je peux faire, c'est m'adapter en continu. La seule compétence que je peux suggérer aux gens d'acquérir, c'est une grosse flexibilité, une capacité à s'adapter en continu.
Ça, et c'est à se former en continu aussi.
Safe.
Un esprit
et du coup,
à
se former
aussi.
En continu. Voilà. De façon light ou de façon plus intensive. Je pense qu'il y aura de la formation light la veille technologique, par exemple, en continu. Ça, c'est déjà le cas. Et des moments où tu passes peut-être quelques mois à changer de carrière ou à te respécialiser dans un domaine. Mais ça, régulièrement. En tout cas, le temps est révolu du diplôme Bac plus 5 de grande école que tu as, que tu utilises ensuite jusqu'à la fin de ta vie professionnelle. Ne serait-ce parce que toi, tu vas péter un câble au bout de 10 ans dans le conseil, tu vas faire un burn-out comme tout le monde, j'en sais rien, hein, tu vois, je caricature, mais pas tant que ça. Et tu vas vouloir faire un nouveau métier, et puis ensuite tu vas revouloir faire un nouveau métier parce que finalement, élever des chefs dans le Larzac, c'est un peu fatigant. Voilà, ça, c'est vraiment ce que j'observe.
Profil très très classique.
Ouais, c'est vrai que peut-être une question qui vient compléter un peu toutes ces réflexions. Aujourd'hui, comment tu penses que le système éducatif très plus traditionnel qui veut compléter son enseignement doit se positionner aussi par rapport à ces secteurs un peu tendances que tu mentionnais, par exemple l'IA, où en ce moment on a un peu cette ruée vers l'or sur les formations notamment. Est-ce qu'il y a des moyens intéressants de l'intégrer sans non plus trop plonger dedans?
Écoute, on n'a toujours pas résolu le débat de à quoi sert le système éducatif de façon générale. Non, mais c'est vrai. Les profs qui sont pas d'accord avec le fait que ça peut servir à avoir un emploi. Il y en a même qui mettent de la distance volontaire et qui disent c'est pour créer de la connaissance parce que certains enseignants-chercheurs, ils ont toujours été habitués au monde de la recherche et pensent qu'ils construisent des gens qui vont faire comme eux. Il y en aura peut-être dans l'eau, très bien, il en faut, mais il n'y aura pas que ça. Donc, tu vois, le débat sur ce à quoi sert l'éducation, si on n'est pas au clair dessus, déjà, on peut pas forcément savoir dans quelle direction on allait. Juste pour être clair et pour le répéter, moi, je prétends pas que l'éducation sert à un seul truc, trouver un job. Je dis juste que moi, ça a été mon combat, c'est mon combat, c'est ce sur quoi je focalise. Si on prend que ça comme axe, ou en tout cas, on se concentre là-dessus, il va falloir être plus en lien avec les gens qui sont des professionnels, les faire un peu plus souvent venir dans la salle de classe, qu'on ouvre l'esprit finalement des gens en allant voir d'autres, plein de typologies de métiers. plein, même si possible, de, d'autres cultures. Ça va être un sujet essentiel. Et ça va prendre du temps parce que, encore une fois, ça dépend les moyens alloués aux enseignants, la surface d'action aussi qu'ils ont. C'est vraiment compliqué. Je pense que on a commencé à mettre du e-learning de différentes façons dans la salle de classe traditionnelle. Et là, on parle du K-12, hein, donc de pré-bac. Mais souvent, ça a été un peu vision un peu court-termiste, qui était d'introduire des iPads dans les salles de classe qui ont coûté cher, qui au bout de 2-3 ans sont cramés. Et en fait, on ne s'est pas posé la question du processus d'apprentissage, du contenu, de la méthodologie. C'est toujours le grand oublié. Donc, moi, j'espère en tout cas qu'on parlera moins de matériel, de choses visibles et palpables, et plus de ces choses invisibles qui ont été trop longtemps oubliées, que sont la méthode de formation, que sont les ingrédients de la formation. Une petite dose de synchrone ici, une petite dose d'asynchrone ici, une dose de one to many ici, one to one là, etc., qui s'adapte à l'individu. Ça c'est vraiment quelque chose qui ferait une grosse différence.
Il y avait une autre question qui me venait en tête à propos plus spécifiquement vraiment de l'e-learning, pour proposer des parcours de formation qui soient quand même plus personnalisés. On utilise donc généralement la data des personnes qui se forment. Est-ce qu'il y a des enjeux chez vous ou de manière plus globale selon toi autour de ça, notamment éthique sur la manière dont ces données peuvent être utilisées, puisque on collecte globalement les intérêts des personnes, leur manière d'apprendre, leur avancement. On peut peut-être imaginer même découvrir des patterns sur la manière dont ils apprennent. Quelles sont vos réflexions un peu à ce sujet-là, sur la confidentialité de ces données?
C'est une bonne question. Ça dépend comment ta formation est conçue et si elle est capable de capter ces infos. La plupart, c'est le bordel. Et les infos sont soit pas là, soit totalement en désordre et personne n'est capable de les lire. Plus tard, elles le seront. Hein. Open Classrooms commence à bien s'améliorer à ce niveau-là. Je te mentionnais qu'on était capable d'identifier la vitesse d'apprentissage d'une personne en nombre de compétences acquises par mois. Et de le comparer avec les collègues qui ont démarré en même temps ou d'une catégorie sociodémographique, etc. On est capable de faire ce genre de choses. Est-ce qu'on l'exploite suffisamment? Non, mais on devrait, je pense. C'est des informations clés qui nous permettent d'aider l'étudiant à apprendre mieux et plus vite en fonction de ses besoins. Donc, il y a plein d'avantages à ces informations-là. Après, si la personne souhaite les supprimer, c'est toujours possible avec la réglementation en vigueur. Donc, je considère qu'il n'y a rien de particulièrement critique. C'est plutôt bien exploité, permettrait d'aider franchement les gens.
Ouais, aussi, c'est vrai que
je vois pas de grand danger malsain. À côté de ça, l'usage au quotidien des outils des grands acteurs du numérique et des réseaux sociaux, etc., me semble poser beaucoup plus de problèmes en termes de vie privée, de confidentialité des données. Je veux dire, Google et compagnie ont déjà beaucoup plus d'infos sur ton historique de recherche et sur ce petit bouton qui t'étonne la semaine dernière qui est apparu à un endroit bizarre. Bah ça, c'est un truc, tu vois, c'est des trucs qui sont vachement importants et intimes. Ils sont déjà là. Donc, ces questions de data, pour moi, c'est donner la possibilité à la personne de les supprimer à tout moment. Mais par contre, on en a besoin pour opérer et on n'utilise même pas encore 10% de ce qu'on pourrait utiliser, de ce qu'on pourrait faire. Je veux dire, quel temps gagner si on est capable de dire au bout d'un mois de formation, OK, cette personne-là, elle a 20% de chance de réussir sa formation. Ça ne veut pas dire qu'elle va réussir ou pas, mais au moins, on peut lever les alertes et on peut lui donner des moyens supplémentaires, on peut faire des choses.
J'imagine que le modèle d'IA... Et j'imagine que les modèles d'IA vous apportent des perspectives intéressantes aussi là-dessus pour pouvoir mieux traiter cette donnée et l'utiliser à profit.
Mais même sans l'IA, c'est juste de l'analyse de data. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on parle beaucoup d'IA et c'est très bien parce que c'est assez phénoménal ce qui est en train de se passer. Mais dans le monde de la formation, on en est même encore à des sujets juste d'informatisation de certaines données basiques.
D'accord.
Et de les exploiter de façon basique avec des modèles statistiques de la base.
Data science, c'est très basique.
De concepts IA. Donc déjà, si on faisait ça correctement, on pourrait créer beaucoup de valeur pour les gens.
Je trouve que c'est un beau mot pour arriver sur la fin de cet épisode. Est-ce que Mathieu, tu te poses des grandes questions politiques, philosophiques, sociétales auxquelles tu n'as pas forcément de réponse? Je te pose cette question parce que la formation est en soi un sujet éminemment sociétal et politique. Est-ce que comme ça, il y a d'autres sujets qui t'animent le soir, j'en sais rien, sur lesquels tu n'as pas forcément de réponse, mais que tu aimerais bien nous partager?
Les sujets qui me préoccupent où j'ai pas du tout d'idée de comment on va faire.
Ouais.
Ouais. Ouais, moi je suis très 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 préoccupé par plein de choses régulièrement, pour être clair. Et j'ai pas toujours la réponse. Ça se fait un peu peur parce que les gens s'attendent des fois à ce que je sache tout, mais c'est pas du tout le cas, loin de là. Par exemple, je pense qu'il y a une sorte de fossé énorme qui est en train de se créer entre certaines personnes qui savent utiliser les nouvelles technologies en termes de productivité et ceux qui ne le savent pas. C'était déjà le cas avant, des exclus un peu technologiques. Et j'ai un peu peur que ce fossé continue à se creuser au point que la société se divise entre des sortes de super-humains augmentés par l'IA de façon vraiment concrète. Là, ça commence à devenir vraiment sérieux. Et ceux qui, en fait, sont un peu laissés pour compte. Et du coup, ça risque d'accroître de façon encore plus forte les inégalités de richesse. Et je suis vraiment préoccupé par ça parce qu'on trouve que les inégalités de richesse n'ont jamais été aussi importantes. Et moi, j'ai plutôt l'inquiétude que ça s'accélère et que tu aies une poignée d'individus qui aillent encore plus loin en termes de richesse. Donc, j'ai un vrai sujet là de vivre ensemble et d'égalité, d'équité face aux richesses de la société, de richesses financières ou de connaissances et de compétences. Et c'est un peu le combat que je mène avec Open Classroom, mais c'est vraiment essayer de cibler en priorité des gens qui ont peu accès à la formation. C'est ce qu'on fait. On veut qu'il y ait au moins 60% de nos étudiants qui viennent de milieux qui ont peu accès à la formation parce que fondamentalement, sinon, ils vont de plus en plus avoir de mal à trouver leur place dans la société. J'en ai peur en tout cas. Donc voilà un peu le sujet qui me torture.
Bah écoute, très très intéressant. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis merci beaucoup à nos auditeurs de nous avoir écoutés pendant cette bonne heure. Merci à Paul pour ta co-animation. Et puis à la semaine prochaine.
Au revoir. Merci Mathieu, à bientôt.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.